Vous êtes sur RTL.
11h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est de la faute des médias. C'est ce qu'a dit André Comte-Sponville, qui était l'invité ce matin d'Alba Ventura. Vous le connaissez peut-être, c'est un philosophe. Et il a poursuivi en disant, est-ce que le travail des médias, c'est de faire peur aux gens? Alors cette question, c'est vrai que tous les journalistes de France l'entendent et on va encore parler du Covid-19. Mais le Covid-19, il existe. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas les journalistes qui l'inventent, c'est plutôt les hommes politiques qui en parlent. Thierry est là.
Bonjour Pascal.
Développer, argumentation, bon, contre-argumentation.
C'était de l'antiphrase tout à l'heure que je vous disais, bien entendu. Hier, vous avez dit que les médias choisissaient leurs victimes. Entre parenthèses, vous choisissez également les sujets. Vous n'allez pas parler de savoir s'il y a plus de champs de pâquerettes en 2020 qu'en 1986. Ça intéresserait pas beaucoup de monde, c'est pas assez sensationnel. Et en fait, je pense que le développement des chaînes info, des médias, des plateaux télé, on voit les politiques qui sont devenus acteurs de plateaux télé, maintenant on les voit tout le temps, et c'est à celui qui va sortir la phrase la plus, la plus sensationnelle. Et là maintenant, tous les soirs, on nous annonce le nombre de personnes hospitalisées, qui vont, maintenant on commence à parler de réanimation, donc ça crée ce climat anxiogène. Les cas qui montent, on nous dit, il y a eu 7000 cas en 24 heures. Bah oui, forcément.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Mais rien. C'est ça. Non, mais loin de moi de dire ce qu'il faut faire, parce que d'abord, j'en ai pas les compétences.
Tout est anxiogène. C'est-à-dire que l'information, par définition, parfois, elle est anxiogène. C'est-à-dire que quand il y a une explosion au Liban, c'est anxiogène d'en parler. Quand un train est victime d'une collision, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Donc l'information, c'est pas toujours du divertissement.
Bien sûr, quand on parle d'une information dramatique, forcément qu'elle va être anxiogène, elle va pas être gaie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, je suis quasiment sûr que dans l'émission, on va parler trois quarts du temps du Covid, tout ce qui en découle directement ou indirectement. Mmh. Donc ça va être encore anxiogène et tout. Mais
c'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
De temps en temps, mon humble avis, de temps en temps, on coupe un petit peu et hop, on glisse une information un petit peu plus.
Et vous trouvez que c'est pas ce qu'on fait?
Pas tout le temps. Mais c'est normal.
Moi, j'essaie de le faire. Par exemple, Greg Caradoni, qui est
dans les... Non, Pascal, oui. Tous les jours, vous dites... Je suis désolé, je vous ai coupé la parole. Tous les jours, vous dites, c'est le sujet qui a le plus d'appel. Oui. Donc forcément, vous allez parler du sujet qui apparemment intéresse le plus des gens. Mmh. Vous avez, entre guillemets, vous avez peur que les gens décrochent si vous parlez d'une information plus légère, mais j'en suis pas sûr.
Mais moi, je partage pas votre avis, puisque de temps en temps et régulièrement dans l'émission, on passe, pourquoi pas, des disques pour alléger, des morceaux, évidemment. Hier, on a parlé d'Annie Cordy hier, c'était à la fois dramatique, mais c'était une manière de donner de la légèreté avec ses chansons. Ouais, donc moi, j'ai pas le sentiment d'être anxiogène, et au contraire,
je ne vous accuse pas vous, je vous dis simplement que le système veut ça, c'est que même si vous passez de la légèreté, quand vous revenez à l'antenne, souvent vous dites, malheureusement, c'est encore ce sujet qui fait débat, et on revient dessus.
Mais vous vous rendez compte, moi je passe mon temps à dire que les enfants qui partent avec un masque, ça me fend le cœur, qu'effectivement je trouve que d'une certaine manière on va dans le principe de précaution et dans nos sociétés on va trop loin. Je suis plutôt en fait d'accord avec l'analyse de Comte-Sponville. En revanche, je pense pas que c'est la faute des médias. Les médias, ils ne sont que miroir. Mais François est là et François va pouvoir discuter avec vous, qui habite Orbec. Bonjour François.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Eh bien oui, moi je dis oui et non. Vous voyez, je suis un peu comme le gouvernement. Eh bien je dis que les médias ne sont pas du tout responsables de ce sentiment anxiogène. Ils n'ont aucune responsabilité. Et vous venez de le dire, je l'ai écrit, vous n'êtes que le miroir. Vous n'êtes qu'un miroir, de la société, de l'évolution, de la dégradation d'une société. Et puis s'il y a un côté anxiogène, il est simplement dû à ceux qui nous gouvernent, parce que au lieu de faire ce qu'il faut, eh bien, ils sont toujours dans le déni ou dans le oui mais non, et ça provoque de l'anxiété. Mais vous n'êtes en rien responsable du côté anxiogène. Parce que si vous n'existiez pas, eh bien, il se passerait une chose suivante. C'est, on serait un peu comme les autruches, on aurait la tête dans le sable et on ne verrait pas le danger arriver. Alors c'est sûr, de ce côté-là, on ne serait pas anxieux. Et puis, ne pas oublier que ne pas divulguer une information, ne pas le faire, peut s'apparenter à une censure. et la censure, c'est pour la dictature. Et moi, je ne suis pas pour la dictature. Je suis pour la liberté d'expression, la liberté d'écoute. Et vous, journalistes, vous devez faire votre travail justement sans prendre de parti. Vous avez une information, vous la donnez, et c'est à nous de l'analyser.
Alors, vous savez ce qu'on va faire? Il est 13h08. Je le dis à Greg Caradoni, pour après la pub, vous allez me trouver dans votre discothèque des choses légères. Voilà, il y en a marre d'être anxiogène. Donc, trouvez-moi Carlos.
Tiens, très bien.
Tire-lipin-pont sur les chihuahuas. Ça, c'est pas anxiogène.
Au hasard.
Au hasard. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Voilà, voilà ce qui va accompagner désormais les informations sur RTL. Je vais proposer cela à Jacques Esnou, hein, pour qu'on soit moins anxiogène dans la matinale d'Yves Calvi, le soir chez Thomas Soto, avec Christelle Rebière. Maintenant, dès qu'il y a une petite chanson, bonjour les petits enfants, on va parler comme ça et puis on annoncera les infos. Voilà. Bah oui, évidemment, les infos, c'est un peu rigoureux, donc c'est compliqué parfois de comment dire, d'être complètement et toujours dans la légèreté.
J'aime vos goûts musicaux.
Non, mais je dis pas que j'aime. Je dis que c'est adapté. On va reparler à Thierry. Thierry, il trouve qu'on est anxiogène. Donc moi, je sors Carlos.
Et justement, l'ambiance est anxiogène en France. C'est la faute des médias. Déclaration du philosophe André Comte-Sponville, invité de RTL Matin avec Alba Ventura.
C'est formidable, hein. Vraiment, réécouter cette interview. Hein, sérieusement, parce que ça, c'est. On peut aussi ne pas être anxiogène et parler comme André Comte-Sponville.
Et c'était formidable. Et vous nous faites peur, écrit Bernard sur la page Facebook de l'émission, mais pas que vous, il y a le gouvernement aussi. L'ambiance est tellement anxiogène, rajoute Mathieu, que je coupe ma télé, les chaînes d'infos, on vit dans la psychose, vous en faites trop, dénonce Annick. Et c'est bien beau d'accuser les médias, lance Gabriel à l'instant, mais tout le monde peut aussi prendre un peu de recul. Vous n'êtes plus des enfants quand même.
Les médias font-ils peur aux gens? Et on était avec Thierry et François. Vous êtes toujours là, Thierry et François?
Oui.
Bon, alors
oui.
on va faire entrer Mathieu, peut-être, dans la course, si j'ose dire. Bonjour Mathieu.
Bonjour Pascal.
Votre avis?
Ben oui, je pense que vous avez... Il y a un ressort. L'homme a toujours eu besoin d'avoir peur. Auparavant, on avait peur de ne pas manger. On a eu peur des loups, on a eu peur des ours, on a eu peur des guerres. Et en fait, il faut nous vendre des peurs récurrentes et nouvelles pour évidemment, je pense qu'effectivement, les chaînes info, il y a aujourd'hui, on est abreuvé d'informations. Moi, le premier, hein, je suis un drogué à l'info, donc je suis peut-être mal placé pour en parler. Mais en fait, vous utilisez le ressort de la peur pour faire de l'audience, c'est une évidence. Et je pense que vous faites trop influencer par les leaders d'opinion. Et une information, bien souvent, a besoin d'être traitée et complexe. En fait, quand on émet des suppositions, il y a une complexité. Et quand on prend des options, il y a toujours des conséquences. Et je trouve ça dommage qu'on creuse pas davantage, vous voyez. Je peux donner
un
exemple?
Ah oui.
Exemple, l'écologie. Aujourd'hui, je suis agriculteur. Donc, je pense être quelqu'un qui m'intéresse à l'écologie, au changement climatique. Je vais parler de toute autre chose. Donc, l'écologie, en ce moment, c'est un peu le marronnier dans les médias, on en parle tout le temps, c'est très important, mais aujourd'hui, je suis pas certain que l'information qu'on me donne soit toujours bonne.
C'est-à-dire je partage à 100% votre avis.
Il faut acheter des voitures électriques, Il faut savoir que la pollution d'un véhicule, c'est déjà le coût de la conception, de la fabrication qui est énorme en termes d'impact de carbone, en termes de consommation, c'est énorme, on n'en parle jamais en fait. Et puis derrière, pour faire marcher un véhicule électrique, il faut une centrale nucléaire, ou bien il faut des éoliennes, il faut autre chose. Donc vous voyez, je trouve dommage qu'on soit pas...
Mais je suis à 100% d'accord avec vous, simplement l'idéologie est devenue une nouvelle religion, et c'est parfois un débat idéologique, et ce débat existe à l'intérieur des rédactions. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi j'adorerais, j'entends ce que vous dites. Par exemple, sur la voiture électrique, c'est un excellent exemple. On veut fermer des centrales nucléaires en France et favoriser les voitures électriques. C'est effectivement incompatible. Je partage votre avis.
Qu'on me démontre, et je me suis déjà un petit peu documenté dessus, je suis sûr qu'un bon vieux diesel qui a 200 000 km, qui du coup ne sera pas produit une nouvelle fois, qui va aller au bout de sa vie jusqu'à 300 000, aura peut-être un impact carbone qui sera peut-être plus faible
qu'une voiture neuve.
Je répète que je peux partager votre avis, mais quand certains ont décidé que Greta Thunberg était la nouvelle icône du monde, bah forcément c'est compliqué d'aller face à cette unanimité médiatique parfois. Et je le dis d'autant plus que ceux qui nous suivent à ce micro savent qu'on essaye d'apporter un peu de nuance. Qui demande la parole ?
Pascal, moi, Thierry.
Thierry, allez-y Thierry.
Oui, je rebondis sur ce que dit, j'ai perdu son prénom, je suis désolé.
Je pense que c'est Mathieu qui est agriculteur.
Il y a aussi le comportement des gens, comment ils réagissent face à l'information. Si les gens, aujourd'hui, réagissaient sur l'écologie et la manière de vivre, comme ils réagissent sur leur comportement vis-à-vis du Covid, on aurait avancé. Parce que là, vous voyez les files d'attente, il y a des 4-5 heures d'attente pour se faire tester, qui sont pas, symptomatiques. Ils y vont, pourquoi ? Pour des raisons qui les regardent. Mais demain, ils vont conduire leur voiture, ils vont patrier leurs déchets.
Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce que je comprends pas.
Ce que je veux dire par là, c'est que les gens absorbent certaines informations plus que les autres, parce qu'on nous dit tous les jours que l'écologie, par exemple, c'est catastrophique. On est en train de tuer notre propre terre. Mais les gens.
Thierry, la liaison n'est pas très bonne. Je vous coupe parce que la liaison n'est pas très bonne, malheureusement. Ouais. Bon, Salim est là. Je vous rappelle notre débat pour ceux qui viennent d'arriver. L'ambiance est anxiogène en France, et c'est la faute des médias. Et c'est ce qu'a dit André Comte-Sponville. Moi, je m'inscris en faux là-dessus. Je pense que, pour tout vous dire, c'est le contraire. Je pense que c'est le public ou l'opinion publique qui réclame aujourd'hui ce type de mesures qui fait que les politiques sont obligés de suivre parce que les politiques pensent à eux, si j'ose dire, et sont obligés d'aller au bout du principe de précaution parce que ils pensent au, pourquoi pas au procès, aux poursuites qui pourraient suivre s'ils ne prenaient pas les décisions qu'il fallait. Alors, en tout cas, c'est le sentiment que je peux avoir. Salim.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis très ému de vous avoir. Enfin, malheureusement, en fait, moi, j'ai été vraiment témoin de plusieurs cas de gens qui ont paniqué face à cette situation de Covid. Et malheureusement, derrière, alors attention, je mets pas tous les médias dans le même panier, d'accord. Les médias, pour moi, c'est voilà, il faut savoir les utiliser, il faut savoir, c'est-à-dire comment je peux le dire, comment s'en servir. Juste avant le confinement et pendant le confinement, j'ai une voisine, je lui avais laissé la petite, je passe un soir pour la récupérer, la petite, et là je la vois vraiment très stressée et tout, et elle me dit: Salim, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer et tout. Je lui dis: calme-toi, et raconte-moi, voilà, j'ai peur du Covid et tout. Je lui dis, si je peux me permettre, elle travaille pas, c'est une femme au foyer, je lui dis: qu'est-ce que tu regardes dans la journée? Bah, elle me dit: je regarde une chaîne d'infos que je voudrais pas citer, pas celle sur laquelle vous êtes, mais votre concurrent, et je lui dis: je regarde ça toute la journée. Je lui dis: arrête de regarder ça, et plus tu regardes, et plus tu vas stresser, et plus, malheureusement...
Mais oui, mais c'est peut-être une femme qui... C'est ça, moi je pense que, en fait, c'est cette crise-là, elle vient percuter ton ADN. Ceux qui sont flippés vont être plus flippés, ceux qui sont raisonnables seront peut-être plus raisonnables, ceux qui sont moins flippés seront peut-être encore moins flippés. Il y a un moment, il y a aussi des gens qui ont peur de tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, si c'était pas ça, ça serait autre chose. C'est aussi un prétexte. Faut savoir raison garder. Et c'est ça que j'entends dans le message de Comte-Sponville. Il y a 500 aujourd'hui personnes qui sont en réanimation en France. Bon, on est 70 millions. Faut savoir raison garder. Il est 13h18. On a une petite chanson ou pas ?
Avec plaisir.
Allez.
Il y a qui ? Le kiki.
Ça c'est bien pour présenter les infos. Ça, j'espère que vous assurerez la bande originale d'Yves Calvi
avec matin, plaisir. Hein.
Et de l'ami Cellier également.
Julien Cellier,
bien
Thomas
sûr.
Thomas Soto aussi.
Ben j'ai dit Thomas, j'ai dit toutes les émissions désormais avec. C'est moins anxiogène, vous voyez, en bande originale sous les informations, Richard Gottener et Carlos, désormais. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Nous ne serons plus anxiogènes, c'est promis. C'est la faute des médias. Si l'ambiance est anxiogène, a dit André Comte-Sponville, c'est un peu comme le malade qui dirait c'est la faute du thermomètre si je suis malade. Et nous sommes avec qui ? Bah tiens, nous sommes avec Florian. Florian qui est jeune. Bonjour Florian.
Bonjour Pascal.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Et tapez-moi dessus.
Mais non, Pascal, vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution.
Ah, tapez sur nous, tapez, c'est de notre faute. Mea culpa, mea maxima culpa.
Non, je pense que vous avez raison de dire que le climat est anxiogène, effectivement.
Bah, c'est pas moi qui le dis.
Oui, mais le climat est anxiogène, mais les médias, on va dire, n'arrangent pas la situation. N'arrangent pas cette situation. Puisqu'en fait, l'information, elle peut être anxiogène, elle peut être bonne ou moins bonne, mais c'est le traitement de cette information. Et je pense que c'est là où est tout le souci. C'est qu'en fait, les médias ont un souci aujourd'hui avec le traitement de cette information, c'est-à-dire qu'il faut, derrière une information qui est simple, effectivement, 7000 nouveaux cas de Covid, il faut faire 2 heures de plateau ensuite pour en débattre, avec des experts, des politiques, enfin tout le monde est expert à chaque fois de tous les sujets. Et je pense que c'est effectivement le problème, c'est le traitement de cette information, et c'est ce qui rend, en fait, l'information anxiogène, parce que elle va être répétée pendant 2 heures, on va avoir des gens qui vont prétendre que c'est catastrophique, que c'est la fin du monde, et c'est vraiment toute cette ambiance qui va faire que le climat est anxiogène. Donc en fait, vous contribuez à ce climat. Mais effectivement, vous avez raison sur le fond que les médias sont un miroir, mais là, on va dire que c'est un miroir qui est un petit peu... Qui amplifie un petit peu le reflet, on va dire.
Mais là encore, il n'y a que les exemples qui peuvent nous départager. Avant le 15 juillet, il n'y avait pas de masque en France. Nous sommes d'accord. Oui. Bon. À votre avis, pourquoi les masques sont-ils arrivés et pourquoi Emmanuel Macron, le 14 juillet, a dit voilà, on pourrait être très rapidement tous masqués et la décision a été prise dans les heures ou dans les jours qui ont suivi? Parce qu'il y avait une demande de l'opinion publique. Ce n'est pas les médias. C'est l'opinion publique qui réclamait, notamment via les réseaux sociaux, avec des gens qui ont peur, et je peux comprendre, moi je peux toujours comprendre que des gens aient peur, qui disaient pourquoi les gens ne sont-ils pas masqués, pourquoi dans les magasins les gens ne sont-ils pas masqués, etc. Donc c'est devenu vraiment de la base, les masques pour tout le monde. C'est ni les médias, ni le politique. Et les deux ont suivi.
Oui, je pense qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on englobe les médias dans un seul et même grand mot, mais en fait, il y a plein de choses différentes. En fait.
Les réseaux sociaux sont un média aujourd'hui. Voilà, Twitter exactement. Est un média à part entière.
Vous avez raison. Mais les journalistes, en soi, c'est pas le problème, puisqu'effectivement, ils délivrent l'information, mais c'est tout le traitement autour. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est en plus amplifié par les réseaux sociaux. Et je pense que malheureusement, peut-être... vous êtes dans les conférences de rédaction, enfin pour préparer toutes les émissions, vous allez aussi un petit peu vous nourrir de tout ça et c'est normal. Mais d'ailleurs, je pense que l'information, elle peut être plus simplement délivrée sans être obligée d'amplifier chaque phénomène pour créer une polémique, même si c'est aussi un petit peu le rôle parfois de certaines émissions. Mais le souci, c'est qu'on a l'impression que même sur les chaînes maintenant un petit peu plus généralistes, les chaînes d'information continuent notamment, c'est une information puis 2 heures de polémique.
Vous caricaturez un peu, mais moi je partage pas non plus cet avis, parce que j'essaie justement de donner à la fois un peu de légèreté, de diversité, de m'amuser, de contradiction, de polémique. Donc j'ai l'impression que tous mes confrères font la même chose, parce qu'ils sont bien ils ont bien conscience de ce que vous dites. Eric est là aussi. Eric, on a besoin des médias, mais vous dites ils provoquent la peur. Bonjour Eric.
Bonjour Monsieur Pro, bonjour. Moi je dirais, personnellement je n'ai pas peur, je connais très peu de personnes autour de moi qui ont peur. Bien, quand on parle au sens étymologique du mot peur. Non, moi ce qui me révolte et ce qui me révulse au bout d'un moment, je ne vous le cache pas, c'est le matraquage et le manque de mesure. Voilà, j'ai vraiment l'impression que les médias sont une énorme machine qui doit s'auto-alimenter impérativement parce qu'il faut que ça tourne, parce que il faut des sujets, parce que c'est comme ça. Et donc, parfois, il me plaît à penser, peut-être que dans les rédactions, on se dit, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On n'a pas grand-chose. Ah bon, voilà, ok. On va lancer un truc sur la canicule. Ou on va lancer un truc sur... Non, mais...
Évoquer la canicule vous êtes rigolo. La canicule, elle s'impose aux journalistes et non pas le contraire. Mais on va continuer la discussion, si vous voulez, après la pub. Votre exemple est formidable. Vous vous rendez compte? La canicule, le 15 décembre, celui qui va proposer la canicule le 15 décembre, croyez-moi, il va pas faire un tabac. La canicule, elle arrive naturellement. C'est-à-dire que si elle est là depuis 3, 4 ou 5 jours, elle est traitée. Effectivement.
Oui, monsieur Pro. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. RTL, Tour de France 2020.
L'excellent Nicolas Georgerot qui est sur la moto. Le Tour de France.
Bonjour.
Comment allez-vous? Vous êtes
Pascal.
Où
Pascal. Eh bien, nous sommes à la sortie de l'île d'Oléron, puisque dans maintenant quelques secondes, eh bien, il y aura le défilé de cette, le défilé protocolaire de cette dixième étape avant le coup d'envoi réel de cette dixième étape. Et évidemment, il y a eu toute une assistance de direction de course qui a été obligée de se réorganiser ce matin, puisqu'on le rappelle, le patron du Tour, Christian Prudhomme, est donc positif au Covid et il se trouve eh bien isolé dans sa chambre d'hôtel, tout comme son adjoint qui est dans la chambre d'en face. Ils sont en réunion de crise depuis ce matin et c'est donc François Lemarchand qui occupe la voiture numéro 1 en tête du peloton, j'allais dire en tête de course, pour faire évidemment toute la régulation et assurer la sécurité du convoi aujourd'hui. Et le patron du Tour sera absent 7 jours, il reviendra à Villard-de-Lans si évidemment le nouveau test qu'il effectue lors des prochains jours est négatif.
7 jours ou 14 jours?
7 jours à minima. D'accord. Il va y avoir un autre test et on verra. Et selon
il était avec Jean Castex.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Selon des éléments transmis à Christian Prudhomme récemment, cette contamination daterait vraiment, serait extrêmement récente, puisqu'il s'agit de son quatrième test en un mois. Mais effectivement, Jean Castex était présent sur la route du Tour samedi au départ de Cazères-sur-Garonne.
Donc Jean Castex était dans la voiture avec Christian Prudhomme, nous sommes d'accord, dans un lieu clos. Et nous sommes aujourd'hui mardi, donc potentiellement notre Premier ministre a peut-être contracté le virus, c'est ça?
Eh bien, il faudra que Jean Castex fasse un test, hein, sans doute, hein, effectivement, puisque les autorités sanitaires devront prendre toutes les précautions. Mais il est possible aussi que la contamination ne date que le dimanche. Ça, on n'a pas d'éléments précis sur la date de contamination de Christian Prudhomme.
D'accord. Bon, et vous-même, les suiveurs, les journalistes, vous êtes, est-ce qu'on fait le test auprès de vous?
Testé.
Est-ce que vous êtes testé?
Oui, on a été testé. Alors nous avons été testés les premiers jours avant le départ, dans les trois jours qui précédaient le départ, pour avoir l'accréditation et arriver sur la route du Tour. Mais en revanche, depuis le départ à Nice, nous n'avons pas de test obligatoire durant les trois semaines de l'épreuve.
D'accord. Bon, bah, merci beaucoup Nicolas Chargerot pour ces précisions. Il est
13h32. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, je rappelle notre duel tout à l'heure. Faut-il annuler le match France-Croatie? On sera avec le docteur Jérôme Marty et Gilles Verdez. Elle est un peu provocatrice, bien sûr, cette question. Mais comme,
forcément.
Bien sûr, mais comme Mbappé a été testé positif, qu'il s'entraînait hier soir avec les joueurs, qu'il est tombé dans les bras de certains de ses coéquipiers, que ces mêmes coéquipiers vont rencontrer les Croates et peuvent transmettre le virus, si on va au bout du bout de la logique de précaution, on aurait pu annuler le match ce soir. Mais on essaiera d'élargir avec le flou parfois et les mesures qui ne sont pas toujours cohérentes.
Autre question,
oui,
qui fait réagir depuis le début de l'émission. Les médias font-ils peur aux gens? Vous intervenez depuis 13h.
Tapez-moi dessus, tapez sur nous, tapez, c'est de notre faute.
Je suis quasiment sûr que dans l'émission, on va parler les trois quarts du temps du Covid, tout ce qui en découle directement ou indirectement. Mmh. Donc ça va être encore anxiogène et tout.
Vous utilisez le ressort de la peur pour faire de l'audience, c'est une évidence.
Alors l'ambiance est-elle anxiogène en France? Eh bien vous en faites trop avec le coronavirus, dénonce Norbert sur la page Facebook. Dès que j'écoute les infos, je suis déprimé, écrit Fabien. C'est l'actualité, voyons, répond Hervé. Et oui, un peu de chanson pour redonner le sourire. Vous avez raison Pascal, conclut Aurélie.
Il y a qui? Le kiki.
Alors on était avec Eric, et Eric il a une vision de notre métier qui est formidable. On arrive en conférence de rédaction le matin, on se dit « Oh, il n'y a pas grand-chose, t'as pas un truc là qui pourrait un peu polémique, un peu dramatique ?» Ah, il y en a un qui dit « Tiens, la canicule, Robert, on va traiter la canicule !» Bah non, Eric, ça se passe pas comme ça. L'actualité, elle s'impose à nous. Alors évidemment, après, c'est des choix, mais... Pourquoi, si vous faites, si vous regardez les, si vous écoutez les radios, si vous regardez la télé, si vous lisez la presse, j'ai envie de dire que les journalistes, c'est bien parfois aussi un souci, traitent un peu les mêmes sujets.
Ah non, mais je suis absolument d'accord, bien évidemment. Bien évidemment, mais l'exemple de la canicule, est risible, mais c'est vrai. Mais je veux dire, bon, on nous a matraqué la canicule tout l'été. Franchement, est-ce que les journalistes se souviennent de ce que c'était la canicule en 2003?
Mais moi, je suis assez d'accord avec vous parce que parfois il y a un choix idéologique sur la canicule. C'est ne vous trompez pas. Quand il y a 5 jours à plus de 35 degrés, vous avez toute la musique médiatique qui se met en marche pour expliquer que on va bientôt brûler sur la terre. Je ne suis pas dupe de ça. Ça existe. Voilà. Vous avez raison.
Voilà. Vous le dites, monsieur Pro, voilà. Hein, alors qu'on sait exactement ce que c'est qu'une canicule. Bon, l'été, il fait très chaud. Et il y a eu des étés très chauds dans le passé, depuis 40, 50 ans. Bon, donc si vous voulez, oui, c'est cette espèce de aussi de matraquage, ce manque de mesure, voilà, que je regrette, moi, chez des gens qui sont quand même des gens, intelligents, qui passent bien, qui ont un savoir, une éducation, qui ont fait des études, etc. Et parfois, j'ai au moins l'impression que c'est... Je vais être un peu vulgaire, mais j'ai l'impression que c'est l'os qu'on jette au chien, quoi. Et c'est dommage, parce que quoi que les gens pensent, et moi le premier, vous êtes d'une très grande utilité, c'est impératif. Et dans une société comme la nôtre, les médias sont absolument utiles, mais je dirais, et ça, peut-être certains devraient s'en souvenir ou l'enregistrer dès aujourd'hui, vous avez de grandes responsabilités. Voilà.
C'est vrai. Alors, c'est vrai. Je voulais juste citer, parce qu'Alain Jakubowicz, qui est un avocat, nous écoute régulièrement, et il m'envoie un petit texto. J'adore votre argument sur RTL, écrit-il. Les gens disent n'importe quoi, donc les politiques et les médias doivent répercuter le n'importe quoi pour faire plaisir aux gens. Et si on attendait que les politiques, à défaut des médias, soient plus intelligents que les gens, entre guillemets. Ça, c'est une bonne question. Mais ça, c'est une bonne question. Mais comment dire, on peut imposer, hein, on peut avoir un système de dictature, Monsieur Jakubowicz, hein, où on va contre l'opinion des gens. Il y a des sociétés qui ont fonctionné comme ça. Je ne doute pas qu'il me réponde, Alain Jakubowicz, s'il m'écoute. On pourra le prendre au téléphone, hein, pourquoi pas. 13h36, un peu. Vous êtes anxiogène, Greg Caranoni. Un peu de musique. Ah, voilà.
Je vous soupçonne d'avoir choisi ce sujet juste pour cette playlist.
Mais non, mais voilà ça, alors voilà ça. Moi, je veux maintenant que l'information soit comme ça. Et on pourrait la présenter qu'un nez rouge aussi. Les présentateurs de télé pourraient avoir un nez rouge. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, en plus du masque.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La France a peur. La France a peur de l'épidémie, du Covid-19, des hospitalisations qui augmentent, des réanimations qui augmentent. La France a peur, oui. Jean-Hervé, vous préféreriez ce ton-là? Que les journalistes s'expriment comme ça?
Ah bah non.
Bonjour Jean-Hervé.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Bah non, pas du tout. C'est vrai que tous les jours, c'est répétitif. Vous savez, c'est... Alors, je ne veux pas dire que vous êtes une radio d'État, mais c'est un peu les radios d'État dans certains pays. Non, mais tout le monde, le chaîne info, toutes les... Tous les jours, c'est le coup de marteau sur la tête tous les jours. On te répète, à force de répéter,
mais
on va
qu'est-ce
croire.
Qu'il faudrait faire, alors? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Mais en parler un peu le matin, point à la ligne.
Mais on n'en a pas parlé. Par exemple, RTL, vous avez
combien
des
sujets? Moi, j'ai une question. Combien de sujets qui auraient pu être importants qui sont passés à la trappe pendant le Covid?
Mais j'entends bien que certains sujets n'ont pas été traités à cause du Covid. Là, vous avez parfaitement raison. Mais je ne pense pas que nous ne parlions que de cela. Et convenez que depuis que vous et moi sommes sur Terre, c'est la première fois que le pays est confiné pendant 2 mois. Ça n'est jamais arrivé, Jean. C'est pas moi qui ai pris cette décision.
Mais bien sûr que non.
Donc évidemment qu'on parle de ça, c'est la situation.
Tous les soirs à 18h30, le gars qui annonçait il y a 20 morts,
mais
il y a 30 morts.
Mais ça, c'est pas nous, c'est pas les médias.
Bah, c'est qui alors?
Bah, c'est le politique.
Eh ben, on le passe pas à la télé, on l'écoute pas, pas à la ligne.
C'est une solution.
C'est vous qui retransmettez l'information.
Vous avez. J'entends ce que vous dites. C'est une solution. On aurait pu effectivement ne pas diffuser.
Alors moi, je suis
diffuser,
entièrement d'accord avec la personne qui est invitée ce matin à 8h15 avec la journaliste.
Alba
Ventura, qui dit mais on n'a pas parlé du cancer, on parle pas des accidents de la route, on parle pas de ceci, de cela. Il y en a autant si c'est pas plus.
Il y en a plus même.
Voilà, c'est. Alors une pandémie, bah oui c'est une pandémie, voilà, bah on n'a pas connu cette génération-là, tout le monde n'a pas connu la pandémie, on n'a pas connu le confinement, bah maintenant on l'aura connu, mais de là tous les jours nous rabâcher la même chose, tous les jours, vous savez, il y a des gens qui ont peur. Moi je disais tout à l'heure à votre collègue là au téléphone, j'ai ma petite sœur qui a un appartement, un magasin dans le centre de la ville de Tours, Mais elle me dit, mais depuis la fin du confinement, il n'y a plus personne qui se promène en ville.
Mais je sais, j'entends, mais j'entends ce que vous le dites. Mais, donc, mais mon analyse, moi, est différente de la vôtre. Je pense que ça vient de la base. Je pense que c'est les gens qui sont...
Non, pas du tout. Absolument pas. Non, absolument pas. Au départ, les gens n'ont pas peur.
Ah bah
la force de rabâcher tous les jours. La même chose. Tous les jours. Ben les gens, ils prennent peur.
Ben je ne suis pas sûr, Jean-Hervé, que vous ayez raison. Je vous assure, je n'en suis pas sûr. Et mon exemple de masque que je citais tout à l'heure, je vous signale que le 15 juillet, personne n'était masqué en France. Hein.
Tout à fait, exactement. Bon.
C'est venu vraiment de la base. C'est-à-dire que moi j'ai vu monter ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens ne sont-ils pas masqués? Pourquoi les gens ne sont-ils pas masqués de ça? Ce qui fait que lorsqu'Emmanuel Macron arrive le 14 juillet, il dit on va passer au masque ces prochaines heures. Certains disent pourquoi ces prochaines heures? Ouais, pourquoi pas maintenant? Et on était tous masqués après.
Ça n'a rien à voir avec la santé, ça. C'est politique.
Mais c'est pas lui qui décide. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il est quasiment forcé de décider. C'est une demande de l'opinion.
Quand vous vous rendez compte que vous en parliez à longueur de journée, qu'il n'y avait pas un médecin qui était d'accord avec l'autre.
Oui.
Déjà. Un matin à 8h, un midi, un 6h, à 18h, enfin bref, il y avait trois avis différents.
Je suis d'accord, là on découvrait la maladie, mais aujourd'hui encore, les gens ne sont pas tous d'accord.
Et après, c'est politique, parce qu'en fait, je vais être méchant, ils se rattrapent aux branches comme ils peuvent, pour dire, allez, on met des masques, on va sûrement prendre moins de risques. Et puis peut-être qu'à la fin d'octobre ou novembre, on va nous dire, bah non, en fait, les masques, ils ne servaient à rien, parce qu'on est quand même contaminés.
Bon.
Regardez dans les écoles. Moi, j'ai mon gamin, les gamins sont à l'école. Non, mais c'est de la folie.
Je suis d'accord, Jean-Hervé, j'ose même plus le dire parce qu'on me traite d'irresponsable. Je n'ose même plus dire que des enfants masqués à 11 ans, ça me fend le cœur. Je ne peux pas vous dire autre chose.
Exactement.
Et quand je dis ça, il y a des gens qui me tombent dessus. Attention, faites attention quand même. Vous avez un devoir de responsabilité. Ouais. Vous êtes journaliste, vous parlez à des millions de gens ou à des milliers de gens. Faites très attention, ça peut être grave, etc. Bon, on nous explique, là encore, c'est pas moi qui décide, on nous explique que les enfants ne contaminent pas, qu'ils ne sont pas contaminants. Bon, qu'on les laisse peut-être tranquilles un peu.
Il y a 2 mois, ils ne contaminaient même pas, puis maintenant, ils contaminent à partir d'un certain âge. Donc l'information n'était pas bonne non plus. Et c'est une information que vous, presse, médias, avez donnée aux gens.
Bah déjà ça a évolué, l'info elle a évolué, on est tous d'accord. Donc là, moi j'ai pas d'avis sur le Covid-19, j'écoute les spécialistes. Et effectivement les spécialistes me disent que le masque en extérieur ça sert à rien.
Et quand vous voyez des gens, ils sont tout seuls dans leur bagnole avec un masque.
Bah oui. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si on me dit, si c'était le virus Ebola et qu'on me disait en extérieur, vous avez 100% de probabilité de mourir si vous êtes infecté, croyez-moi, je le porterai le masque.
Tout à fait.
Mais si on me dit c'est inutile, j'écoute les médecins. Bon,
Jean-Hervé. Je pense que vous répétez trop la même chose à longueur de journée. Depuis le début du Covid, elle est où la formation qui fait rigoler? Il n'y en a pas.
Mais ça fait... On essaie d'être rigolo, nous, quand même, de donner des petites...
Oui, on rigole. On rigole, mais on n'a pas le droit de rigoler sur le dos des gens qui sont malades.
On rigole.
C'est vrai que ça fait...
On va pas rigoler sur le dos des gens qui sont malades.
Mais vous dites on rigole.
Jean-Hervé, on va essayer d'être décent.
Mais le
procès de la peur des médias, tout à l'heure j'ai cité volontairement, j'ai dit la France a peur. Bon, c'est Roger Gicquel, c'est 77. C'est un procès qui a 50 ans. Vous voyez, on fait toujours le même procès aux médias.
Exactement,
c'est vous qui êtes responsable de tout.
Et on ramène les mêmes images.
Écoutez, je ne sais pas.
Ils n'en ont pas d'autres.
C'est-à-dire, les mêmes images.
Quand on met un truc comme ça, on revoit Gicquel aux informations. La France a peur.
Redites-le.
La France a peur.
Redites-le encore.
Non, c'est bon.
Ah si, vous l'avez bien dit. Jean-Hervé, moi j'aime bien.
La dernière fois c'était le train et la bouffe. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Jean-Hervé, alors franchement, il faut nous appeler. Et puis Greg est en train de nous faire une petite playlist. Tout à l'heure, on était sur Carlos, mais là, il a trouvé des indicatifs vraiment qui nous foutent la trouille.
Faut revenir au sujet, c'est vrai que c'est lourd pour ça. Rendez-vous compte, les personnes qui sont sujets, c'est lourd pour eux.
Je suis d'accord. 13h47, on se dirige vers notre débat. Je ne sais pas si Gilles Verdez et le docteur Marty sont déjà là.
Au revoir.
Au revoir, Jean-Hervé.
À bientôt.
Merci, il est sympa, Jean-Hervé. 13h47, la pub, à tout de suite.
TF1 20h avec Roger Gicquel.
La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Ça, c'est pour annoncer le duel, cette petite musique cartoon.
Légèreté.
Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour.
Notre question, ce sera, fallait-il annuler le match France-Croatie ? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis Jérôme Marty, qui est le médecin que vous connaissez. Alors, avant d'entamer le duel, puisque Jérôme Marty, il arrive du terrain, et moi j'adore ce qu'il vient de me dire hors antenne, c'est que maintenant il est submergé par les enfants qui arrivent dans son cabinet, c'est bien cela ?
C'est ça, oui.
Vous pouvez enlever votre masque.
Hein. Et non, je le garde, c'est parce que je vois plein de cas contact en ce moment, donc je l'ai gardé ce matin chez vos confrères de BFM, en leur expliquant que comme on est en contact en permanence avec des patients susceptibles d'être Covid, je préférais le garder de façon à ne pas contaminer autour de moi.
Ah d'accord.
C'est un réflexe de médecin.
Et bien ça c'est bien. Bon, mais quelle journée vous avez vécue hier ?
Ben, comme tous mes confrères sur la France entière, on a des remontées terrain de partout qui nous disent, on a nos cabinets qui sont embolisés par des demandes de parents qui nous amènent leurs enfants, qui sont sortis de l'école parce qu'ils ont toussé, parce qu'ils ont mal à la tête, parce qu'ils ont n'importe quel petit symptôme, et on leur demande de faire des certificats de compatibilité avec le retour à l'école. Donc on en a mais des dizaines et des dizaines et des dizaines. En plus, on ne peut pas s'engager comme ça, puisque, hormis de tester l'enfant, on n'a pas de preuve que... Alors on peut dire c'est une rhinopharyngite, c'est une angine, c'est une allergie, c'est des choses comme ça. Mais si on n'a vraiment pas trop d'éléments, à part faire un test, c'est difficile, on ne va pas tester les tout petits.
Donc vous avez eu par exemple 30 enfants hier dans votre cabinet ?
Moi j'en ai eu une vingtaine, ouais. Moi j'en ai eu une vingtaine et on a un cas par exemple sur Paris, cabinet de 3 médecins, en 1h30 dans la matinée, ils ont eu 140 appels.
Et ça, c'est la sécurité sociale qui va payer.
Ben c'est en tout cas un problème parce que ça embolise les cabinets et on n'a pas le temps de s'occuper des autres patients.
Non, mais c'est, je jure, on a mis le doigt, moi je le dis à chaque fois, on a mis le doigt dans un truc de fou, on ne va pas s'en sortir. Hein. On ne va pas s'en sortir, bien évidemment. Alors, notre débat pour le moment, on le termine d'ailleurs, c'est l'ambiance est anxiogène en France, c'est la faute des médias. Est-ce que le travail des médias, c'est faire peur aux gens ? C'est ce que disait ce matin André Comte-Sponville, qui est un philosophe connu. On va peut-être terminer avec Jérémy. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Pascal.
Votre avis sur cette discussion que vous écoutez depuis 13 heures ?
Écoutez, d'abord bonjour et puis merci d'avoir pris mon appel. J'aimerais rectifier le mot peut-être anxiogène par défiance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Pascal, je vous ai appelé la saison dernière sur la défiance des médias, des Français vis-à-vis des médias. Il y avait un sondage qui était sorti et on avait évoqué ça ensemble sur...
Oui. Mais d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, mais l'un n'exclut pas l'autre. Hein. C'est vrai qu'il y a une défiance vis-à-vis de la parole généralement médiatique.
Je vous avais même un petit peu contrarié avec l'histoire du pont de Ligonnès, le fameux week-end où ça avait fait de l'histoire pour rien. Et ben, je crois que c'est là, il y a encore une fois, à mes yeux, un problème de communication vis-à-vis des médias. Moi, je ne suis pas du tout de l'avis de l'auditeur précédent quand il parle de radio d'État. Au contraire, je trouve que vous avez un intérêt énorme parce que vous nous informez. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel ce qui se passe en ce moment. Mais par contre... alors, je parle des médias en général, je parle pas d'RTL ou de telle ou telle télé. Je trouve parfois qu'il y a un emballement. Prenons l'exemple du mot « la deuxième vague », et peut-être que le docteur Marty va pouvoir en parler. Le mot de la deuxième vague, vous, les médias, vous en parlez depuis juin. Ah, ça va peut-être arriver en juillet, août, mais vu que les températures vont augmenter, ça va peut-être réduire le virus. Et puis finalement, ça sera peut-être à l'automne. Et ça, c'est pas le gouvernement, c'est vous. Et vous nourrissez des mots, vous engagez des mots, sans toujours savoir. Et c'est ça ce qui fait peur. C'est plus cette... et je pense que certains ont encore une fois une défense. Le mot de la deuxième vague, c'est le très bon exemple que je pense que personne n'a cité depuis 13 heures. C'est ça. C'est quand est-ce qu'elle
il peut vous répondre, Jérôme Marty. C'est pas a priori.
Je suis un peu d'accord avec ça. La sémantique est importante. En fait, il n'y a pas de deuxième vague. Il y a un continuum d'une épidémie qui nous a pas quittés et puis qui s'est ralenti par le confinement et qui réaccélère maintenant. Mais c'est la même chose. Quoi. C'est la même courbe qui repart. Le fait de parler de deuxième vague, effectivement, on voit ça comme un mur qui nous arrive dessus et ça peut être anxiogène. Alors que si on explique que ce virus ne nous a pas quittés, qu'il est toujours là, d'une part, on comprend qu'il faut faire attention et continuer à se protéger pour éviter que ça accélère. Et d'autre part, on est plus dans le chronique que dans l'aigu et on a effectivement peut-être moins peur. Ouais.
Alors moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jérôme Marty. Et ce matin, sur un plateau de télévision, j'ai apporté la contradiction à un médecin, Laurent Alexandre, je vais le citer, qui parlait, lui, de deuxième vague. Et je lui ai dit, monsieur Alexandre, vous n'avez pas le droit de parler de deuxième vague. Parce qu'effectivement, ce mot est anxiogène. On peut parler, pourquoi pas, de rebond, de continuum, etc. Mais il y a aussi des médecins, et vous le savez bien, Jérôme Marty, qui est faire peur. Il y en a, j'en ai entendu depuis le début. Et eux, franchement, j'ai envie de les accuser plus parfois que... je connais pas de journalistes qui aiment faire peur, mais j'ai vu des médecins, je vous assure, qui... Tu te dis, tiens, alors celui-là, il a une petite jouissance personnelle à annoncer des mauvaises nouvelles. Bah, je vous le dis parce que j'ai eu ce sentiment. Merci, Jérémy.
Oui, bah merci Pascal.
Et merci puis, parce qu'il est 13h55. Bah,
c'était important d'apporter ça.
Vous avez raison. Vous avez raison.
Je crois que le gouvernement à l'époque avec Monsieur Édouard Philippe prenait le choix. Il a été plutôt apaisant lui, mais parfois les médias jouent un petit peu avec ça. Et je crois que le docteur Marty vient de conclure.
Il est à mi-chemin, le docteur Marty. Il n'est pas, honnêtement, il n'est pas le plus rassurant du monde, mais il n'y a pas de quoi l'être non plus. Mais il n'est pas le plus alarmiste du monde, donc il a une parole.
Il est factuel.
Crédible. Il est factuel. Il est factuel. Non, mais c'est vrai, on sent pas que vous jouissez en train d'annoncer des mauvaises nouvelles, tant qu'à faire. Laurent Tessier, je trouve qu'il fait chaud dans le studio.
Oui, voilà. C'est ce que j'allais vous dire.
Oui, hein, on est d'accord. Hein, parce que moi,
la température monte avant le débat.
Il fait un petit peu chaud, donc je me demande si je vais prendre ma température. Allez-y.
C'est une absence qui fait du bruit et qui fait parler depuis hier soir.
Breaking news. Kylian Mbappé testé positif à son tour au Covid-19. L'attaquant des Bleus et du PSG forfait pour ce soir face à la Croatie et face à l'OM en championnat.
Kylian Mbappé avait participé à l'entraînement avec les Bleus hier en fin d'après-midi avant d'apprendre les résultats de son test. Test passé hier matin. Il a été placé à l'écart du groupe après la réception des résultats. Le joueur asymptomatique a rejoint son domicile dans la soirée. Faut-il être inquiet pour ses coéquipiers?
Il y a un risque que Mbappé soit contagieux depuis quelques jours. Combien? Sans symptômes, c'est pas évident d'établir un calendrier avec précision. On sait aujourd'hui qu'une fois le virus attrapé, il faut en moyenne 48 à 72 heures pour éventuellement le transmettre aux autres. L'attaquant a été testé négatif mercredi dernier, mais il est peut-être positif depuis jeudi, vendredi, samedi, jour de match, jour de son but.
Ouais, jour de son but, et l'équipe de France a été touchée de plein fouet par la pandémie. Steve Mandanda a dû quitter les Bleus vendredi matin après 2 tests positifs, mais le profil asymptomatique de Mbappé peut rassurer tout le monde.
Les scientifiques estiment qu'une personne qui n'a pas de symptômes a une charge virale moins élevée qu'un malade qui a de la fièvre ou qui tousse, donc Mbappé n'est peut-être pas très contagieux.
En tout cas, tant que chaque sélection dispose de 13 joueurs valides, dont un gardien, on peut jouer, ce qui est le cas. Alors, faut-il annuler vraiment le match France-Croatie ce soir? Avec nous, en studio, le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, et Gilles Verdez, que vous connaissez bien sur RTL. Le débat risque d'être animé.
Et puis, effectivement, au-delà de ce cas Mbappé, on essaiera d'élargir. Par exemple, le Stade de France ce soir est vide, alors que les théâtres sont pleins. Plus exactement, le Stade de France est fermé alors que les théâtres sont ouverts. C'est ça que je comprends pas dans ces mesures. Et ce matin, l'excellent Cyprien Sini faisait un surf sur cette situation de mesures qui ne sont pas toujours cohérentes. Il est 13h58, Olivier Bois entre dans le studio avec son masque. Et il a raison, les infos dans une seconde, le flash dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h. Olivier Bois, le flash, c'est maintenant.
Et on va partir sur le Tour de France d'abord.
RTL, Tour de France 2020.
La course, elle a débuté il y a un quart d'heure avec tous les concurrents, puisque aucun cycliste n'a été détecté positif au Covid-19. En revanche, Christophe Pacon, on vous retrouve en direct, c'est le patron du Tour de France qui, lui, pour le coup, a été testé positif.
Et incroyable, en tout cas, après toutes les mesures de précaution prises par la direction de la course et d'avant le Tour, même nous, hein, les journalistes, techniciens, ont tous été testés avant de partir, avec un test PCR avant le départ de Nice. On attendait peut-être des cas, comme c'est le cas quand même aujourd'hui. Il faut rappeler que dans quatre équipes différentes, et bien des membres du staff ont été touchés, comme Fudis, comme AG2R, comme Hilton Scott ou encore Ineos, et il faut le préciser encore une fois, si un deuxième membre d'équipe, coureur ou non, est testé positif d'ici une semaine, et bien l'équipe devra se retirer du Tour de France. Mais c'est vrai, c'est Christian Prudhomme qui n'a pas donc baissé le drapeau aujourd'hui pour le grand départ. Il a laissé cette charge à l'un de celui que l'on connaît sur les routes du Tour, qui a été coéquipier de Greg LeMond, c'est François Lemarchand, qui a fait 10 Tours de France. François Lemarchand qui a toute la science de la course, évidemment, pour diriger cette magnifique étape aujourd'hui. Franchement, Olivier, ça vaut vraiment le détour. Spectacle avec un soleil. Ah, le long de la mer, ça va être magnifique. On est parti de l'île d'Oléron, c'est une première. Hein. Île d'Oléron à une autre île, l'île de Ré, ça va être magnifique. On va surveiller le vent qui est pas si fort hein, pour l'instant, ce début d'étape. Et on a deux coureurs échappés, deux Suisses, il y a quatre Suisses dans le peloton, deux Helvètes donc tout devant, Michael Scherr et Stéphane Kunk qui, pour l'instant, le peloton concède combien? Je regarde notre écran de contrôle, 1 minute 32. Voilà, et il reste 151 km de course, deux coureurs en tête, Scherr et Kunk avec 1:32 d'avance sur le peloton. Maillot jaune tout à l'heure, 14h30.
Merci beaucoup Christophe Pacaud et évidemment Christian Prudhomme Positif. C'est notre Premier ministre Jean Castex qui se retrouve qu'à contact puisqu'il a passé l'étape de samedi aux côtés de Christian Prudhomme dans la voiture. Jean Castex qui s'est exprimé là-dessus.
Effectivement, je me trouvais à une étape du Tour de France samedi et j'ai appris il y a quelques instants que le directeur de cette épreuve avait été testé positif. Eh bien, je vais donc m'appliquer les règles que le gouvernement a édictées et que je vais respecter scrupuleusement. D'abord, je précise que pour aller sur le tour, comme le prévoyait le protocole, je m'étais fait tester, que j'ai évidemment porté un masque tout le temps, que je me suis efforcé de respecter les gestes barrières, que je vais donc immédiatement subir un test moi-même, hein, c'est tout à fait normal, et que j'observerai les règles. Je précise tout de suite que je me sens parfaitement en forme et donc je vais continuer, mais en appliquant les règles, à exercer ma fonction de chef du gouvernement. Il y a des techniques de visio et autres qui le permettent, Dieu merci.
Le Premier ministre Jean Castex au micro de Jacques Seret. Emmanuel Macron lui appelle les Français à être plus vigilants dans les réunions privées. Le président l'a dit ce matin dans le cadre d'un déplacement à Clermont-Ferrand. L'épidémie est plus forte ces dernières semaines. Olivier Véran affirme ce matin qu'une seconde vague est tout de même encore évitable. Il fera beau et ensoleillé demain matin sur toute la France. Un peu nuageux sur un quart nord-ouest et plutôt doux, entre 12 degrés à l'est jusqu'à 24 degrés à Nice.
Il est 14h. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On est quand même dans un monde merveilleux et grâce à Olivier Bois, on a pu avoir l'information. L'info du directeur du Tour de France, elle a 1h30. Hein, à peu près. Christian Prudhomme testé positif. Jean Castex a déjà réagi, Premier ministre. Toute la France sait qu'il a été au contact de Christian Prudhomme parce qu'il était dans la voiture. Et lui-même fait une déclaration pour dire « Je vais me faire tester, j'ai respecté les gestes barrières, j'ai fait ce qu'il fallait faire. » Comme s'il se justifiait et comme si c'était un drame national. C'est-à-dire que le Premier ministre a rencontré Christian Prudhomme et quasiment, je suis en train de voir les chaînes info, etc. Le monde s'arrête. Le monde s'arrête. Drôle de pays, drôle d'époque plus exactement, mais on pourra en parler. 14h04.
Le duel. Des auditeurs ont la parole.
Gilles Verdez me regarde parce que je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire c'est normal. Fallait-il annuler le match France-Croatie? On est avec Gilles Verdez, on est avec Jérôme Marty qui est médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Bon, fallait-il annuler le match? À qui je donne la parole en premier? Gilles Verdez, tiens.
Allez. Mais non! On va pas annuler ce match, bien sûr que non. J'attends avec impatience les arguments du docteur qui, j'espère, ne trahira pas la sacro-sainte science. Mais non, pourquoi on devrait annuler ce match? Toutes les précautions ont été prises. Mandanda positif rentre chez lui. Avant même d'autres joueurs, Pogba positif ne vient pas. Puis maintenant Mbappé, testé, contrôlé par la rigueur de Didier Deschamps et de son staff. Il repart chez lui. Donc ce match doit avoir lieu, docteur. Ce match, c'est le match de l'équipe de France. C'est le match des champions du monde. Et l'équipe de France, c'est la France. Laissez-nous jouer.
D'abord, on connaît l'importance du foot et l'envie des Français d'avoir du bonheur. Parce qu'on vit des temps difficiles. Et que lorsque l'on peut avoir un moment où l'on oublie le Covid-19, où l'on oublie les soucis, c'est bien. Et donc, un match de foot, c'est important. Une rencontre internationale, c'est important. De quoi on parle? On a un joueur international, le plus connu, qui a été testé positif. Les autres joueurs ont été testés aussi. Ils ont été testés négatifs. Ils peuvent jouer. Mais quand ont-ils été testés? La question est là. Est-ce que c'est juste quelques heures avant le match? Est-ce que c'est hier? Est-ce que c'est avant-hier?
Ils ont été tous testés hier matin, manifestement.
Hier matin, bon. Entre le moment où ils ont été testés et le moment du match...
Il y a eu un entraînement et on a vu Mbappé se jeter dans les bras.
Et je peux avoir quelques positivités. C'est toute la problématique des tests que l'on peut avoir aujourd'hui. On a trop de temps de latence entre le moment où on teste et le moment où on a le diagnostic. Y compris, d'ailleurs, on le voit pour des gens qu'on peut appeler privilégiés, parce qu'on peut supposer qu'un joueur de foot international n'a pas la même filière qu'un Kidam pour se faire tester. Et même chez eux, on a 48 heures de temps. est-ce que dans ces 48 heures de temps, je vais pas avoir une positivation? La problématique, c'est qu'on a, un système assurantiel qui est énorme sur la tête de chaque joueur. Ces joueurs, ils appartiennent à des clubs. Qu'est-ce qui va se passer si après le match, je me retrouve avec 2, 3, 4 joueurs positifs? Quelle va être la réponse des clubs?
Là, vous parlez finance.
Oui.
Donc, vous êtes pour une annulation en raison de la finance.
Je suis pour une prudence, mais encore une fois, je préjugerai pas du tout. Je voudrais pas prendre la place, et tel n'est pas mon propos, du médecin de l'équipe de France. C'est lui qui en est responsable, et je vais pas empiéter sur le terrain de mon confrère.
Mais il y a des règlements, docteur. Il y a des règlements. On l'a rappelé dans le flash. 13 joueurs disponibles, dont au moins un gardien. Nous les avons. Si vous voulez annuler le match de ce soir, vous voulez donc arrêter immédiatement, là, aujourd'hui, le Tour de France, que le directeur est positif. Quand on a un cas dans une école, on ne ferme plus la classe, mais toute l'école, à vous entendre. Moi, je suis pour la dureté du protocole, mais pas plus que le protocole. Et à vous entendre, j'ai l'impression que vous voulez arrêter la Ligue des Nations, stopper l'équipe de France et stopper l'expression de tous les sports, qu'ils soient professionnels ou amateurs.
Et on en parle après la publicité. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
14h10, faut-il annuler le match France-Croatie? Vous savez qu'on fait toujours intervenir évidemment des auditeurs, même si c'est le duel des auditeurs avec Jérôme Marty et avec Gilles Verdez. Par exemple, Bernard est avec nous. Bonjour Bernard, vous nous écoutez depuis tout à l'heure.
Oui, bonjour. Bonjour Pascal Pro.
Pour ou contre le maintien du match?
Je suis pour le maintien du match. Je suis sur la position de Gilles Verdez, totalement. Dans la mesure où, si on commence à rentrer dans ce système, il faut tout annuler, quel que soit le football, le Tour de France ou le basket. On est dans une forme de prudence et d'affolement. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs. Qui est une exagération. En fait, c'est une exagération. Bien sûr qu'il y a des risques, mais enfin, l'équipe de France, c'est pas Mbappé tout seul, il y a des joueurs et des remplaçants de valeur, et je pense que pour des joueurs qui sont testés négatifs, même si c'était hier, il faut présenter un 11 international ce soir en Croatie.
Jérôme Marty, une question. Oui. Tout le monde est traité de la même manière, que vous soyez 20 ans en pleine forme sportive de haut niveau et un prof, par exemple, qui est un peu fatigué, peut-être qu'à 60 ans, dans une classe. Mais les jeunes, par exemple, un sportif de haut niveau, je vais vous poser une question provocante. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il ait le Covid-19? Il n'y a aucun danger pour lui.
Il est effectivement...
Et tous les gens qui sont autour de lui, il n'y a aucun danger. Ils sont en super forme, tous.
Il est effectivement moins à risque de développer une pathologie Covid-19 à symptômes graves qu'un autre, puisqu'on sait que ça tape plus les personnes âgées ou les personnes polypathologiques, etc. Mais, on a quand même eu des cas chez des patients jeunes.
Jeunes et sportifs de haut niveau?
Oui, mais sportifs de haut niveau, non, parce que le recrutement est très faible dans ce milieu.
Mais imaginons que
tu aies un cas d'un sportif qui fait un symptôme grave, etc., ça va poser problème. Il faut comprendre bien les choses. Moi, je ne suis pas pour ou contre le match, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est de profiter de cet exemple pour montrer combien notre système aujourd'hui de tests est peu performant, parce qu'il est trop lent. Si on avait des tests salivaires, par exemple, ou des tests antigènes, comme on l'a dit ce matin, qu'on pourrait avoir les résultats en 20 minutes, là, ça serait parfait. On testerait les joueurs juste avant d'entrer sur le terrain. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour l'instant, ces tests.
Et quand est-ce qu'ils vont être prêts?
Il faut espérer, on les annonce depuis déjà des semaines, on les annonce pour demain, mais depuis des semaines.
Dans le monde entier, c'est pareil?
Non, il y a des pays canons.
Qui a ça?
Je pense qu'aux États-Unis, ils en ont. Il y a différents pays. Alors, je n'étais pas la liste la précise, mais c'est fait.
Tests salivaires.
En Asie, ils les utilisent, oui.
Tests salivaires, c'est ce qui sera le plus rapide.
Ou autres tests qu'on a par écouvillonnage, mais qui sont beaucoup plus rapides. Avec résultat en 20 minutes, Olivier Véran en a parlé, je crois, ce matin, en disant que ça allait être performant. J'avais un débat tout à l'heure avec Olivier Baran, qui est le président du syndicat des jeunes biologistes, qui dit que pour l'instant, eux, ce qu'ils ont vu, ils n'étaient pas encore prêts, mais on peut espérer qu'ils soient mis en ligne.
Gilles Verdez.
Alors là, Pascal, je reviens à votre problématique, une sorte d'exonération des jeunes footballeurs.
Des jeunes sportifs de haut niveau.
Les gens
qui sont en pleine forme, effectivement.
Non, mais totalement contre, parce que ces jeunes-là, ils ont des entourages, ils rencontrent des gens. Et là, vous créez une sorte de citoyenneté à deux vitesses. Parce qu'on est jeune, parce que prétendument on est de haut niveau, parce qu'on aurait une bonne hygiène de vie et qu'on s'entraîne, on ne serait pas touché, on serait exonéré de protocole. Là, je ne vous rejoins plus. Je dis, mais je connais bien votre rébellion à tous les protocoles. Moi, je dis le protocole, rien que le protocole. Mais le protocole,
non, mais
quand
je
même.
Parle avec les, alors, je vais vous dire, je parle oui, avec je, les présidents de club.
Évidemment.
Il se trouve que vous le savez bien, je les connaisse bien, très les présidents bien. De club. Ils te disent, on est chez les fous. On n'a que des gosses qui sont dans une forme exceptionnelle, qui ont des résistances dans tous les domaines exceptionnels. Ce sont des sportifs de haut niveau. Et on les met en quarantaine parce qu'ils ont le Covid-19 et ils ne peuvent plus s'entraîner. Tu parles.
Vous savez très bien que ces sportifs qui ont globalement une hygiène de vie exemplaire, parfois ils sortent, parfois ils rencontrent d'autres gens, ils ont des entourages très nombreux. Donc là, il y a un risque. Là, je ne vous rejoins pas.
Et puis c'est un raisonnement paradoxal, si vous permettez, Pascal Praud.
Parce je me range à vos
même,
arguments.
Ces mêmes sportifs qui sont réglés comme des Formule 1,
oui.
Dès l'instant où ils vont avoir une toute petite déchirure, on va les arrêter pendant 3 semaines, alors qu'un sportif de niveau normal ne va pas s'arrêter. Donc on les protège là, et puis par rapport au reste, on ne les protégerait pas. C'est assez curieux. Comme...
Bon, c'est l'occasion aussi d'évoquer combien les mesures sont différentes d'une situation à l'autre. Le Stade de France ce soir est à huis clos. Bon, les théâtres sont ouverts.
Ça, c'est très curieux.
Enfin, c'est quand même... Donc, les théâtres en clos ce soir, il y aura des représentations dans Paris où des gens seront... En plus, je ne sais même plus s'il y a la distanciation sociale ou pas dans les théâtres. C'est selon, j'ai l'impression. Madame la ministre Roselyne Bachelot souhaitait qu'il n'y ait plus de distanciation physique. Bon. Et au Stade de France, en plein air, où on nous dit qu'il n'y a absolument aucun risque de contact, non, ni quoi que ce soit.
Mais enfin, le football crée la passion.
Oui.
Donc attention, vous allez avoir des gens qui, dans le même endroit, vont
mais
véhiculer...
Mais il n'y en a pas de risque, dit M. Marty. Bah,
on n'a pas de risque. Mais M. Marty est parfaitement respectable. Il est médecin, je ne le suis pas. Mais il n'a pas quand même le monopole de la science.
Est-ce
et
qu'il
de
y a
la
un risque dans les stades?
Alors, si on écoute, par exemple, le président du Stade toulousain.
Oui.
Le président du Stade toulousain s'est élevé contre le taux d'étiage à 5000. Vous savez qu'on avait bloqué le nombre de spectateurs à 5000. Lui, il a dit, moi, je peux faire plusieurs paquets de 5000 en les faisant rentrer par différentes entrées, en organisant les choses de façon à ne jamais avoir de concentration populationnelle pendant un temps, parce que c'est ça qui est dangereux, c'est le fait du contact proche et prolongé. Donc il faut éviter ce contact-là. Mais on est arrivé à des aberrations. On a vu des stades où on avait 5000 personnes sur des stades de 40 000 places, et les 5000, on les mettait ensemble. Enfin, c'est complètement fou. Donc on s'en fout, le problème c'est pas d'avoir 5000 personnes, le problème c'est d'avoir un espace de 2 mètres, 3 mètres entre chaque personne. Si on le répartit sur 40 000, on peut facilement rentrer 20 000 personnes, sans problème.
Donc ce soir, effectivement, il pourrait y avoir un peu plus de monde au Stade de France, et l'exemple du théâtre est frappant.
Ouais, je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu hier matin. J'ai été au cinéma, je voulais tester, j'ai été au cinéma très tôt le matin, je voulais tester au hall, ce qu'avait dit Roselyne Bachelot, vous pouvez manger du pop-corn. Je voulais voir de mes propres yeux. Je suis allé dans une salle de cinéma, on était 4. D'accord. Il y avait une personne qui n'avait pas de masque. Il y avait une personne qui avait un masque et qui l'a retiré pour manger tout le cinéma. Eh bien, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je vous donne mon expérience.
Peur de quoi?
J'ai eu peur. J'ai
vous
eu
étiez,
peur.
Vous êtes 4 dans une salle. Vous étiez à combien
mais
de
je
lui?
Mais je vous dis pas que je suis parfait. Je vous
non,
donne ma propre expérience.
Vous étiez à combien de lui?
J'étais à 2,50 m et 3 m, j'ai même changé de place.
Mais pourquoi vous, mais si vous êtes 4 dans une salle, pourquoi vous ne mettez pas à 10 mètres de lui?
Mais ce n'est pas, mais j'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu, j'allais pas me lever au milieu de la science, je vous raconte mon expérience.
Oui.
Donc oui, moi j'ai peur. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai sans doute tort, mais je n'irai pas au théâtre. Moi, je n'irai pas encore dans un stade. Donc je comprends que le stade soit à 8
km. Et le film était bien?
Le film, c'était Le Dernier Refuge, un blockbuster américain très moyen. Mais vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui,
vous disiez
bien.
La France a peur. Moi, j'ai peur.
Mais vous
j'ai...
êtes sérieux?
Ben sinon, je vous le raconterai pas.
Non, et vous
non,
jouez
mais
pas.
Rebondir,
vous êtes sincère.
Mais j'étais sincère. J'avais envie de regarder le film. J'en ai absolument pas profité en me disant mais qu'est-ce que je fais là? J'ai failli sortir, mais je sors pas au cinéma.
Pour rebondir sur ce
ah
que
oui,
dit
mais je vous donne
Gilles
une
Verdez.
Expérience.
Pour rebondir sur ce que dit Gilles Verdez, on sait que le danger est effectivement au lieu clos, parce que le mode de contamination en lieu clos n'est pas identique à celui en extérieur. En lieu clos, la problématique, elle est aux particules virales en suspension, comme de la fumée que tout le monde peut respirer. Donc si on a un nuage viral, qu'on soit à 2 mètres, 10 mètres, 15 mètres de l'autre, s'il existe, tout le monde le respire. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde porte le masque, non pas pour éviter de respirer d'ailleurs le nuage, mais pour éviter qu'il soit concentré. Parce que moins ce nuage est concentré, moins il est contaminant. Et moins il est contaminant, plus vous avez de chances de développer une pathologie sans symptômes. Et c'est en ça que le masque est intéressant, parce qu'il garantit une immunité sans risque. Et à l'extérieur, par contre, c'est pas du tout le
donc
même
j'ai
problème.
Raison d'avoir
le
peur.
Mais oui, à l'extérieur, le nuage s'en va. Et comme le nuage s'en va, Il n'y a pas besoin de porter le masque quand on n'est pas en concentration de population.
Alors effectivement, lorsqu'on disait tout à l'heure que les médias sont anxiogènes, vous en êtes un exemple. Mais... C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent se disent « je ne vais plus aller au cinéma, j'ai écouté Verdez ».
Aller au cinéma, mais porter des masques.
Voilà.
Masquer.
Oui, et lavez-vous les mains.
Respectons les règles. Pas aller dire à la personne à 3 mètres de moi « mettez votre masque ».
Non, mais tu rentres dans le cinéma, t'es masqué, tu vas à ta place, t'es masqué. Et s'il n'y a personne à côté de toi et qu'il n'y a personne devant, que vous êtes quatre, à ce moment-là, peut-être tu peux enlever ton masque pendant la séance.
Mais là, vous détournez la loi. Mais c'est quand même incroyable. Nous sommes sur RTL, moi je dis protocole. Je respecte les lois.
Personne
n'est au-dessus des lois, même pas
vous. S'il n'y a personne autour de toi, moi je fais au cas par cas.
Si je suis
avec 10 personnes autour de moi. Si je suis avec 10 personnes autour de moi, bah évidemment je porte le masque et je le garde. Mais s'il n'y a personne.
Si vous êtes seul dans la pièce, c'est pas la même chose.
Voilà.
Mais si vous êtes 10-15,
c'est
et
pas
que
4.
Vous y êtes en plus pendant 2 heures, nul ne sait si parmi ceux qui sont autour de vous et qui n'ont pas le masque, il n'y en a pas qui excrètent du virus, et donc si ce nuage n'est pas en train de se constituer.
14h19, vous m'avez convaincu. J'irai pas au cinéma.
Si, au contraire.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il nous reste 8 minutes. Le docteur Marty est là. Le docteur Marty qui est auteur d'un livre, Le scandale des soignants contaminés dans les coulisses d'une sale guerre. Et ça sort demain aux éditions Flammarion. Et on connaît votre combat. Là, on l'a suivi durant tout le printemps. Vous étiez en colère et cette colère, elle est intacte aujourd'hui pour les soignants que vous représentez en plus, puisque vous êtes président de l'Union française pour une médecine libre.
Elle n'a pas cessé cette colère parce que ce qu'on a vécu a été du domaine presque de l'indicible, c'était abominable quoi. On nous a envoyés au front à poil, sans moyen de protection. On a quantité de soignants qui sont contaminés dans le secteur public comme dans le secteur privé. On a 46 médecins généralistes qui sont décédés. On a des urgentistes qui sont décédés. Et tout ça parce qu'ils n'avaient pas de masque. Puisque quand on interroge leur famille nous disent et mon mari allait à la pharmacie, il demandait des masques, on ne lui en donnait pas. Et il voyait des Covid, 50, 60 Covid par jour. Et donc il respirait du virus toute la journée et il finissait par être contaminé gravement. Et à mourir. Donc on a eu ça, on a eu le scandale des EHPAD avec des EHPAD qui ont été décimés avec 20, 30 morts en 15 jours parce qu'on n'avait pas de moyen de protéger les soignants qui eux-mêmes se contaminaient et diffusaient l'infection. Donc on a eu un tel retard malgré toutes les alertes qu'on a pu lancer, que je ne pouvais que crier cette colère pour me faire le relais du terrain dans un livre, pour qu'il y ait une trace et puis surtout, oser mettre la main dans la plaie là où ça fait mal pour mieux soigner demain.
Le scandale des soignants contaminés dans les coulisses d'une sale guerre et ça sort demain. La visière, c'est aussi efficace que le masque ou pas ?
Non, malheureusement non.
On est sûr de ça.
La visière, elle est valable pour éviter de projeter des postillons ou pour éviter d'en recevoir sur son visage. Elle est utile notamment pour les soignants, pour éviter de recevoir des postillons dans les yeux, sur les muqueuses, mais elle n'empêche pas d'aérosoliser.
Alors que le masque,
évidemment, quand vous parlez, vous aérosolisez, 95% de votre aérosolisation reste fichée dans le masque. De la même façon que les postillons.
Mais pas dans la visière.
Et non, dans la visière, elle est par essence, elle est ouverte. Donc l'air,
ça passe par en dessous.
L'air circule, oui.
Stéphane est là, et ça va être notre dernier auditeur, je pense, Stéphane. Je vous rappelle la question, faut-il annuler le match France-Croatie ? Votre réponse ?
Alors, bonjour Pascal.
Bonjour.
Moi, je dirais oui. Par principe de précaution, tout simplement parce que Kylian Mbappé vient du PSG, il a participé, on va dire, avec les autres joueurs, et maintenant est contaminé. Et pourquoi il ne pourrait pas contaminer les internationaux qui, eux, retourneront dans leur club et peut-être recontamineront, on va dire, les autres joueurs. Donc, par principe de précaution, moi, je dirais oui.
Bah écoutez, c'est un débat qu'on a eu ensemble, le principe de précaution, Gilles Verdez. Bah,
s'il les a contaminés, hélas, c'est déjà fait. Donc, il est parti maintenant. À ce moment-là, on ne joue plus jamais au football, puisqu'il y a des cas positifs partout. Mais là, le match, il peut avoir lieu, puisque tout le monde a été testé négatif. Il y a des règlements de l'UEFA. Ce match, c'est France-Croatie, c'est la revanche de la Coupe du Monde, de la finale. C'est l'équipe de France, et l'équipe de France, c'est la France. Moi, je vais vous dire, si on annule ce match, là, c'est la fin de tout. J'aurais l'impression que c'est un nouveau confinement. Il n'y a plus de foot, il n'y a plus de sport, il n'y a plus d'expression, il n'y a plus d'équipe de France, donc on n'est plus là.
Il n'est pas annulé, là, ce soir. Il ne sera pas annulé.
Si, on annulait. Votre question, c'est doit-on annuler? Donc non, n'annulons jamais l'équipe de France. Elle est au-dessus de tout et de tous.
C'est encore, elle est au-dessus de tout et de tous.
Oui.
Elle n'est pas au-dessus du confinement. Il n'y a pas eu de match de l'équipe de France pendant le confinement, Jérémy.
C'est l'équipe de France, c'est un symbole. Le symbole durera toujours.
Bon, c'est à 20h45 ce soir sur RTL, Greg
Caradoni. Juste après l'heure du crime, absolument.
Non, bah, écoutez, alors, l'heure du crime, c'est pas du tout anxiogène. Programme. Quand nous voilà, bon. Donc c'est Philippe Sansfourche. C'est Philippe Sansfourche, c'est Nicolas. Ah bah non, c'est pas Nicolas Georgerot. C'est Philippe Sansfourche qui est toute l'équipe d'RTL. Éric Silvestro, j'imagine, qui sera là également. Christian Olivier qui sera à l'écoute. Toutes les forces de RTL seront mobilisées. Le
la
résultat.
La réponse à la question.
Oui, parce que c'est la réponse maintenant.
Faut-il annuler le match France-Croatie? Vous êtes partagé 45% pour l'annulation, 43% pour le maintien.
C'est fou, ça, quand même. Alors, c'est pas un sondage, mais c'est une indication. Je suis sidéré parce que je trouvais presque la question incongrue. En la posant ce matin, je la trouvais provocatrice et peut-être incongrue. Et il y a quand même 50-50 quasiment avec les auditeurs. Bon, Flavie n'est pas là aujourd'hui, Greg ?
Si, si, elle est dans un autre studio, on la retrouvera juste après la pub.
Ah bah, j'espère, parce que moi j'aime bien quand elle vient nous voir. Pourquoi elle n'est pas avec nous aujourd'hui ? Pourquoi elle a changé de... Elle est là, Flavie ?
Vous
lui
poserez la question, peut-être que c'est un sujet entre vous.
Non, bah, elle veut plus voir.
C'est pas votre journée. C'est pas votre journée.
C'est des gestes barrières, mais elle les respecte, elle change de studio. Donc là, on a changé de catégorie. Bon, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.